Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, retour sur le championnat du monde de vitesse MotoGP, Moto2 et Moto3 2016. Pour en parler avec nous aujourd'hui, trois mordus de cette discipline, Claude Bonduel.
Salut.
Nicolas Poiret.
Oui, bonsoir.
Nicolas Poiret et Jean-Pierre Bonduel.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Pierre Bonduel. Alors, deux Bonduels, il vaut mieux avoir deux Bonduels qu'un seulement. Oui, c'est préférable. Oui,
on nous met souvent en boîte.
Voilà. Alors, trois passionnés des Grands Prix moto. Avec eux, nous allons disséquer ce championnat du monde 2016 qui s'est terminé il y a 15 jours sur le circuit de Ricardo Tormo à Valence en Espagne. Alors, première question, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison? Est-ce que c'était palpitant? Le ressenti un peu?
Ah, c'est une belle saison, hein. Une belle saison.
C'est une très belle saison, oui.
Et pourquoi une belle saison? Parce qu'il y a eu beaucoup de chutes ou de bagarres ou...
9 vainqueurs différents.
Il y a eu pas mal de chutes, ouais. Mais il y a aussi pas mal de vainqueurs différents. Ouais. Et pas mal de vainqueurs aussi au niveau marque. Pas qu'une marque.
D'accord. Moi, j'ai regardé un petit peu les stats, un petit peu Eurosport sur la télé. J'ai même regardé un petit peu les entrées au Grand Prix de France. Plus de 5%, on approche les 100 000 spectateurs.
Attends, 100 000 le dimanche, 200 000 sur le week-end.
La moto GP, en gros, la moto attire maintenant des spectateurs.
Oui, voilà.
Oui, mais la chose qui, qui arrive, c'est que les gens ne regardent pas la télé puisque la télé ne montre pas de moto actuellement. Juste sur Eurosport.
Il y a Internet, il y a Eurosport, il y a
la Deux Belges.
Alors nous, on est quand même un peu dans une région un peu privilégiée.
Dans c'est le Nord. La TNT belge.
Merci la Belgique.
Nous, on peut voir un peu la Moto 2 et RTBF2. La Moto GP, donc gratuite. Évidemment, dans notre région, parce que maintenant, l'émission est écoutée sur Internet et surtout de la France. Donc on peut effectivement regarder un peu les grands prix sur la chaîne belge. Sur la 21 et puis
Qui retransmet Moto2 et MotoGP.
Voilà. Alors est-ce qu'on va, la moto va supplanter un peu la Formule 1?
Oh, je pense pas, non. Non, la Formule 1 pour l'instant financièrement elle est plus rentable que la moto, malheureusement.
Oh, c'est pas le même public.
Puis c'est pas le même public, ouais. Et surtout que la montée du motophobe en ce moment en France est pas mal, surtout des grandes villes. Je ne citerai pas de villes.
Ouais, mais enfin, ça n'a rien à voir, c'est du sport.
Ça n'a rien à voir, c'est du sport quand même. Claude.
Oui, mais c'est les financiers des sports. Et les financiers, s'il n'y a pas de financiers, il n'y a pas de télévision.
Mais maintenant, on a des champions français en plus.
Hey,
oui. Des champions français.
On peut revendiquer un double champion du monde
cette année. Hein. Ouais.
Bon voilà, donc c'est ce qu'on verra durant cette émission. En troisième demi-heure de cette émission, nous avons rendez-vous avec Jean-Michel Meunier du club Vauxhan. Donc ça veut dire qu'on va parler moto française. Voilà, et puis tout de suite on passe à un morceau de musique et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back.
wants a piece of your pie. So don't rush in. Take your time.
Retour sur le championnat du monde de vitesse 2016 avec nos amis Claude Bonduel, Jean-Pierre Bonduel et puis Nicolas Poiret. Qu'est-ce que ça vous laisse comme impression cette saison 2016?
C'est vrai que le grand fait marquant, c'est qu'il y ait eu 9 vainqueurs. Et ça, c'est dans les annales, c'est jamais arrivé. Faut remonter vraiment très loin et je sais même pas si j'y arrivais. Mais c'est vrai que ça, c'était pour le spectacle, c'était énorme cette année.
Oui, alors, aussi bien pilote que moto, parce que le Suzuki revient et ça se sent de plus en plus. Ils sont améliorés en 2 ans, ils ont gagné un Grand Prix, ce qui est très très rare.
Toutes les marques ont gagné.
En 2 années. Oui, mais tout le monde attendait la Ducati cette année et franchement, elle a fait un flop au début. Hein. Elle s'est rattrapée après, mais. C'est tout. Mais franchement, au début de saison, il y avait quelque chose qui manquait. Quoi. Avec les chutes et les accidents qu'ils ont eu, ils ont empêché justement leur pilote de s'exprimer et il y a eu un doute.
Le gros changement cette année, c'était les pneus Michelin. Ils ont changé. Avant, on avait des Bridgestone et là, on était en Michelin.
Alors, est-ce que c'est ça qui a rendu possible le fait qu'il y ait 9 vainqueurs différents cette année?
Ben, je sais pas, il n'y a que ça, mais ça a contribué.
C'est un ensemble de choses.
Ça a contribué. Parce que l'offre en Bridgestone, avant en Bridgestone, ils avaient tous les mêmes pneus en vrai. Ils prenaient toujours le même choix et on ne voyait pas des pilotes changer de pneus vraiment. Alors que là, l'offre était plus large.
C'est vrai que Michelin offre souvent 2 pneus ou 3 dans certaines catégories, ou pluie ou mixte. Donc il y a des choses quand même qui sont pas mal.
Moi je pense que c'est une conjugaison de beaucoup de choses. Il y a les pneus effectivement. Il y a l'électronique qui est devenue la même pour tout le monde. Ça a diminué la force des gros teams, ça a nivelé le niveau.
Ouais.
Et il y a eu cette année la pluie. La pluie qui, elle aussi, a nivelé les niveaux, la météo,
et qui
a permis d'avoir des teams de second plan qui ont réussi à gagner les Grands Prix.
Ouais. Oui, et les pilotes qui sont montrés justement parce qu'ils ont pris des risques.
Voilà.
Et les principaux pilotes, justement, ont minimisé les risques, ce qui ont fait qu'ils n'ont pas gagné.
Et puis, il y a eu des chutes, beaucoup de chutes. Donc ça a bousculé un petit peu aussi les chances.
D'après les statistiques, ils disaient que cette année, il y a eu juste, au niveau 500, 3 chutes de plus que l'année dernière.
3 chutes de plus.
70.
Mais sans compter les essais, à mon avis.
70 contre 67 pour l'année dernière.
Peut-être, hein, mais globalement, c'est ce qu'il y avait dit.
Ah ouais, on a l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Hein ?
Ouais. Peut-être.
Alors on a l'impression un peu aussi que le pneu avant Michelin, il n'est pas aussi fiable que ça. Quand même.
Surtout en début de saison, il était très très bon en grip à l'arrière et pas assez. Et c'est vrai qu'à l'avant, c'était pas du tout la même sensation.
On a vu Marquez aussi chuter.
Ouais, tout le monde chutait au départ.
Au moins 2 ou 3 fois de l'avant, hein, et pas que lui d'ailleurs.
Il y a des pilotes qui sont adaptés très vite et d'autres moins. Lorenzo, par exemple, en milieu d'année, il a pris l'eau de partout, on peut dire. Et il y avait quelque chose qui marchait plus chez lui.
Je crois que la différence, c'est surtout la différence de grip. Le grip arrière est très très bon et par rapport à celui avant. Donc il y a un décalage entre les deux grips, si bien que les pilotes ont eu un peu de mal à s'habituer.
Ouais, il ne faut pas oublier que c'était la première année de Michelin, donc ils découvraient le truc. Ils ont fait plein de pneus expérimentaux. Parce que souvent, ils disaient, tiens, ça ne marche pas bien. Hop, ils ressortaient un pneu la semaine d'après sur une autre piste qui résolvait le problème. Donc je pense qu'ils ont beaucoup travaillé et que l'année prochaine, on aura moins de soucis.
Alors en début de saison, on a trouvé que. Moi, je trouvais qu'Honda était moins préparé au niveau des pneus Michelin que Yamaha. ou que les autres marques. Et apparemment, bah non, c'est Honda. Enfin, Honda était moins préparé que...
Mais Honda a souffert de l'électronique unique, surtout, et même pour l'adapter à ses pneus. Ça aussi, c'est important.
Et puis, ils n'ont pas le droit de toucher au cadre ni au moteur. Donc, en fait, quand ils découvrent les pneus, même ils ne peuvent pas adapter leur cadre aux nouveaux pneus. Ils sont coincés, donc ils pouvaient jouer que sur l'électronique pendant l'année.
Et l'électronique, il ne faut pas oublier que Honda n'y a pas touché très très longtemps. C'est vraiment le dernier à s'y mettre dans la nouvelle technique, c'est-à-dire pour tous, la même. Et alors qu'Honda avait le sien, ils ont boudé même au début de... Et ils ont perdu beaucoup de temps à cause de ça. Et le début, les Honda étaient beaucoup plus nerveuses et brutales à cause de ça, je pense.
Mmh. Bon voilà, je propose de faire une petite pause musicale. Et après, on parlera un petit peu de notre pilote fétiche, un peu favori, un peu à nous tous. Je sais pas, moi je parle de Rossi. Hein. Non, peut-être pas pour moi personnellement,
oui.
Peut-être.
Mmh.
Hein, oui, voilà. Oui, on parlera un petit peu.
C'est une icône du sport moto.
Rossi à la quête du 10e titre, hein, qui y a du mal à conquérir hein, depuis 2-3 ans. Là, c'est pas facile quand même.
Juste une question, la Miche. Ouais. Rossi a été champion du monde la dernière année, à quelle date?
Écoute, en 2014.
Bonne question.
Voilà, c'est bon.
Deux.
Ah, en 2014, c'est bon.
Ah, ah non, il était sur.
En 2013.
Il était sur Ducati.
Non plus. Non plus.
Donc alors.
2012.
Non plus.
En 2012. En 2011.
Non.
Bah 12 alors.
Non plus.
Alors,
9.
9.
Oui.
Voilà.
En 2009.
Voilà. Oui. Ça fait loin quand même, hein.
Ça fait loin.
Ouais, ouais. Très bien.
Mais ça fait trois fois qu'il est deuxième.
Enfin, maintenant, pour revenir aux pneus, les usines ont eu le temps d'analyser les choses, de s'adapter, et je pense que l'année prochaine, on aura de nouveau un petit écart.
Get the box car blues.
bientôt, c'est sur Campus, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur le, en gros, hein, sur le championnat du monde de vitesse, MotoGP, Moto2 et Moto3 2016, avec Claude Bonduel, Jean-Pierre et puis Nicolas. On va reparler un petit peu de Rossi. Alors, tu précisais, Claude, il y a des champions, Rossi en champion en 2009.
La dernière fois en 2009, voilà. Ouais.
Finalement, ça fait loin.
Ça commence à faire loin.
Ça fait loin quand même.
Il y a eu l'épisode Ducati aussi, où il a marqué le pas pas mal. Et les gens pensaient vraiment qu'il était fini. Il est revenu quand même. Et
quand même aux avant-postes, toujours deuxième. Hein. Il a 37 ans. Deuxième. 37, 3 fois deuxième, ouais. 37 ans. Et cette année, il a encore fait des... Il y a eu des endroits où il a fait un peu de bêtises. Enfin,
il n'y a pas eu de chance non plus.
Hein. On aurait pu avoir une finale un petit peu comme l'année dernière. Aussi.
Oui, mais il a gagné que 2 fois cette année. Par contre, Lorenzo a gagné 4 fois et Marquez 5 fois.
Et il est deuxième.
Et il est deuxième.
Il est quand même deuxième, oui.
Il est quand même deuxième parce que, comme je disais, Lorenzo, il a pris l'eau. Ça n'est vraiment fort. Et, il a un peu coulé à certains moments. Et...
Mais Rossi est toujours là, quoi, en fait. C'est ça le truc. C'est que,
oui, il est toujours
il est jamais loin du podium. Ah, et même quand il se ramasse aux essais, il arrive à retrouver une ressource incroyable au warm-up ou pendant la course pour ramarrer.
Contrairement à ce qu'on pense, au niveau des meilleurs tours pendant une course, j'avais vu une statistique il n'y a pas si longtemps. C'est Rossi qui mène le train au niveau de tous les champions.
Alors qu'est-ce qui fait marcher ce mec-là finalement à 37 ans?
La passion,
il est blindé.
Essentiellement la passion.
Il est blindé de pognon. Hein. De toute façon, moi j'ai regardé un petit peu son compte en banque. Il a 2,5 milliards sur ce compte en banque.
Il est toujours aussi passionné.
Il est blindé de pognon. De toute façon, ça ne sert à rien. Il peut arrêter. Hein.
Ah bah oui, mais c'est
même l'année dernière, il a même intéressé le fisc italien, hein, et même bien. Oui, même,
il roule pas pour l'argent, il faut voir le bonheur qu'il a quand il a fait une pole, voilà, ou quand même quand il arrive sur un podium deuxième.
Ouais, tout à fait.
Il est super content. Non, hein, il a plus rien à prouver à personne. Il devrait se dire, deuxième, c'est pas terrible. Lorenzo, quand il est deuxième, il fait la gueule sur le podium.
Ouais.
Et Rossi, il exulte. Ouais. Il est tout content, il fait signe à tout le monde, ça y est, il est deuxième, il est sur le podium.
C'est un passionné alors.
Il est passionné, ouais. il est content, c'est sa vie.
C'est un vrai passionné, il paraît que quand il a des invités chez lui, il lui prend une envie, d'un seul coup il va s'entraîner, il laisse tout le monde chez lui.
Je sais pas, Balou, hein, j'ai jamais été chez lui.
Non, mais j'ai vu des interviews où on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il est comme ça.
Par contre, il a un problème. Il a un problème, c'est son compagnon d'écurie. Parce que Lorenzo, il a réussi à s'en débarrasser cette année. Mais il en a récupéré un autre.
Pour l'année prochaine,
c'est pas un cadeau.
C'est pas un cadeau.
Ah non, c'est pas un cadeau.
Non, moi je le sens très très bien, Vinales, il va être pas mal, je pense.
Bah oui, justement, c'est ça le problème. À chaque fois, il récupère une pointure dans le box à côté.
C'est logique, et puis Yamaha prépare l'avenir aussi. Hein. Il sait que l'avenir, même s'il y a encore Rossi au moins un an ou deux, c'est quand même plus l'avenir.
Rossi, c'est Nikon, c'est la partie commerciale. C'est important pour Yamaha. Rossi, moi j'ai vu une affiche récemment qui était rigolote, t'as Marquez qui dit « Je suis champion du monde », et juste en dessous, t'as Rossi « Je suis le Moto Grand Prix ». C'est un peu ça.
Non, mais il suffit d'aller sur les Grands Prix. En début d'émission, on parlait de un peu l'audimat.
Oui, ouais, exactement.
Mais je me demande si c'est pas lui qui fait l'audimat et le nombre de spectateurs en fait. Le jour qui aura part aussi sur les qui va
accrocher
son cuir, et on verra un petit peu.
On verra la différence. Ouais. L'engouement sera plus le même. C'est certain. Il draine avec lui énormément de monde. Puis spectaculaire. Même pendant les courses, il fait le spectacle.
Oui.
Hein. Il est toujours prêt à remonter en fin de course avec des pneus usés. Il n'a jamais l'affaire. Il y a du spectacle avec lui.
Enzo Ferrari a laissé le rouge. Rossi laissera le jaune.
Le jaune.
C'est un peu ça, oui, je pense aussi. Voilà.
Bon, tout de même, c'est quand même pas lui qui a gagné le championnat du monde. Hein. Le pilote le plus rapide, c'est quand même Marquez. Donc, champion du monde pour la cinquième fois.
Alors, cinquième fois champion du monde.
Alors qu'au début de saison, on le plaçait comme perdant.
À cause de la Honda.
À cause de la Honda qui ne marchait pas pendant tous les essais, elle a eu des problèmes, il n'arrivait pas à faire ses meilleurs temps comme il faisait avant. Il tombait assez facilement pendant les essais.
À cause des nouveaux pneus, il s'habituait
pendant
pas.
Pendant l'hiver.
Ouais.
Et, sauf que moi, j'avais pronostiqué quand même premier.
Ouais. Mais bon, en fait, il a que 23 ans. Hein. C'est un gamin. Hein. Alors, d'ailleurs, il y a des photos qui ont circulé.
Avec
Hayden. Avec Hayden. Donc, en fait, ils étaient compagnons d'écurie parce qu'en fait, Hayden a fait un remplacement en fin de saison. Et c'est vrai qu'on le voyait enfant. Il était là avec sa petite. Il était carrément un gamin à côté d'Hayden.
Lui, par contre, c'est qui c'est Vinales? Parce qu'il s'est battu en championnat espagnol avec Vinales.
Oui, justement, Vinales a le même âge et a pris tous les champions depuis le début, depuis les mini-bikes, avec Marquez.
Donc ils se connaissent
Vinales,
bien.
Vinales, c'était un des gens qui arriva à le battre à l'époque.
Voilà, je crois que le prochain client pour Marquez, ça va être Vinales, c'est
ouais.
sûr. Hein.
Ouais, je pense aussi.
Ouais. Et c'est vrai que. Mais il a que 23 ans, il a quand même été 5 fois champion du monde. Il est quand même vachement régulier, il a fait qu'une seule chute. C'est quand même une machine à gagner, ce Marquez.
Marquez a une seule chute
cette année.
Il a fait quand même pas mal de chutes. Il est reparti.
Une seule chute en Australie.
Il est reparti, mais il a quand même chuté quand même pas mal de fois.
Il a fait une seule chute en Australie. Il n'a pas fini le Grand Prix. Mais en fait, il y a aussi un truc qu'il a compris, c'est que avant il voulait gagner toutes les courses. À chaque fois qu'il prenait le départ, il voulait gagner toutes les courses. Là, il commence à apprendre à gérer. Quand il voit qu'il ne peut pas trop y arriver, il accepte d'être sur le podium, troisième, tant pis.
Il lâche et marque les points.
Ouais. Et c'est comme ça qu'il est devenu champion.
Il a marqué des points pratiquement à tout, sauf sa chute, mais il a chuté avant et il a réussi à finir quand même dans les points. En Italie, par exemple.
Bon, je vous propose de passer un morceau de musique et après on va revenir un petit peu sur les quatre fantastiques pour de bon, alors, de Vinales, Yannon, Crochelot. Qu'on verra peut-être l'année prochaine plus souvent sur des podiums.
Les quatre fantastiques, il y en a un qui a eu beaucoup de mal.
Pedrosa.
Alors Pedrosa, apparemment, la raison qu'il donne, c'est qu'il est trop léger pour les Michelin. Oui. Les Michelin ont une carcasse plus dure. Et il est trop léger pour les Michelin. Et en fait, les Michelin, on avait le droit de les dégonfler. Puis en fait, il y a eu cette fameuse chute dans les essais hivernaux de Loris Baz à 300 km/h. Donc ils ont remonté les pressions minimales autorisées. Et du coup, ils n'arrivent pas à faire chauffer les pneus, à les déformer. Donc pourtant, Pedrosa, même s'il il fait 50 kg, hein. Mais même s'il est léger, il a commencé pourtant à mettre du lest. Hein. Parce qu'avec le nombre de plaques, de broches, de vis qu'il doit avoir sur lui, je pense qu'il va quand même gagner quelques kilos à force. Hein.
Si on enlève le métal, il fait plus que 45.
Ah oui, il fait plus que 45. Ouais.
C'est pas la peine qu'il fasse de régime pour maigrir.
Donc il a trouvé ce système-là pour essayer de lester.
Il y a eu mieux hein, que. Il y avait Barrichine. Il paraît qu'il faisait sonner quand il passait pour prendre son avion, il passait dans le truc, il faisait sonner parce qu'il y avait des morceaux de vis partout. Thank you.
head all right. But if you see me out putting bottles down, I'm trying hard to forget now. I'm going back to the light.
Briefing aujourd'hui sur le chemin du monde de vitesse MotoGP, Moto2 et Moto3 2016. On a toujours quatre pilotes, hein, Marquez, Rossi, Pedrosa, Lorenzo. Et cette année, on a vu quatre autres pilotes, alors Vinales, Yannone, Crochelot, hein, qui ont rejoint un petit peu ces pilotes.
Qui ont gagné des Grands Prix, oui.
Qui squattent un petit peu toujours le podium.
Et qui se rapprochent du podium, oui, c'est sûr. Il se rapproche plus régulièrement. Crochelot, il a gagné deux fois quand même. Une fois sous la pluie, mais une fois sur le sec.
Oui. Hein.
Au fur et à mesure qu'il avait les pièces de HRC et que sa moto allait mieux, je pense aussi. Hein.
Et les Ducati, à un moment donné, ils ont monté un petit peu en puissance, mais pas tout de suite comme ils espéraient. Et le premier qui a gagné, c'est Iannone. Et après, Dovizioso, oui. On n'y a pas cru en très longtemps. Parce qu'il y a toujours eu une poisse pas possible pour terminer deuxième. Il ne faut pas oublier qu'il a terminé beaucoup sur le podium, mais pas de victoire.
Ouais.
C'est ça, que deuxième victoire.
En MotoGP.
Ouais, en MotoGP. Mmh.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'était quand même.
Oui, il y a d'autres pilotes qui m'ont impressionné. Il y a Petrucci, hein, qui n'a pas de gabarit des autres, qui est. Il y a Miller qui m'a impressionné aussi quand même, parce qu'au bout de deux ans, il a quand même. Sur la flotte, il était génial, quoi. Et alors il y en a un qui m'a surpris, c'est le frère de Love qui est venu. Il n'a pas fait le championnat, mais il était quand même impressionnant au niveau adaptation sur les Grands Prix qu'il a fait.
Oui, vis-à-vis de ceux qui sont venus en cours de route, ouais, comme ça, ouais. À chaque fois ils étaient largués et lui n'était pas vraiment vraiment largué. Il était à peine à une demi-seconde de certaines personnes qui ont l'habitude de courir. Donc c'était pas mal.
Voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être enchaîner sur notre pilote français, Loris Baz, peut-être.
Il a peu de chance.
Je pense qu'il est à 3 ou 4 points au championnat. Hein, mais
On aurait pu le mettre dans les pilotes qui nous ont impressionnés.
Il a 35 points.
Il a 35 points, non, il est 20e.
Il est 20e.
Ouais.
On aurait quand même pu le mettre parce que bon, il a beaucoup chuté, il y a eu des problèmes avec sa machine. Mais quand il est là. Il a quand même fini 4e ou 5e.
4e.
Au niveau des essais, il était quand même bien doué. C'est quand même, il se défend quand même vachement bien.
Il a eu beaucoup de chutes. Après, une fois qu'il a eu ses chutes, il s'est blessé. Il a dû être absent pendant 4 courses. Donc ça vient plomber son championnat. Mais c'est vrai qu'il a eu 4 abandons et 4 arrivées hors des points. Mais autrement, à chaque fois, il était dans les points. Et il a fait quand même une 4e place en République Tchèque, c'est pas mal. Hein.
C'est mieux que Rabat, par exemple, parce que Rabat, ouais. Il a manqué un seul Grand Prix, mais il était là pratiquement tout le temps et il a marqué quand même moins de points.
Et il roulait sur une Ducati GP 14, la deuxième série. Là. Oui. Donc une moto qui était donnée avec ça un peu inconduisible.
Oui, mais justement.
Avec les Michelin, ça allait mieux.
Voilà, avec les Michelin, on s'est rendu compte que la GP 14-5, comme ils avaient 14. Lui et
Barbera.
Ouais. Il marchait vachement mieux au début de saison, même que les Ducati officiels, puisqu'ils avaient à un moment donné, Barbera avait plus de points que les deux officieux,
oui.
Que Iannone et Crochelot, donc Crochelot, Dovizioso.
Oui, oui. Mmh.
Alors voilà, en fait, Loris Baz a 37 points, il termine avec 37 points précisément, Claude,
oui.
Au championnat du monde.
Possible.
2016. Voilà. Et on va donc terminer maintenant sur cette saison 2016. Beaucoup de changements de team pour 2017. Alors là, c'est un gros sujet. Là.
Ah, c'est le gros chambardement, c'est vrai.
C'est vraiment un chambardement.
Et ça a commencé tôt dans la saison.
Ah oui, oui. Tout de suite, pratiquement. Ouais. Le deuxième Grand Prix,
c'est Rossi qui a lancé le truc. Ouais, voilà. C'est vrai que ça, c'est. Il a re-signé en fait chez Yamaha. Et du coup, en cascade, tout s'est fait.
C'est le jeu des chaises tournantes.
Hein, le dernier à avoir signé, c'est notre Français, Zarco.
Hein, quasiment. Oui, mais il attendait vraiment, mais c'était pratiquement officieux. Mais la signature, oui, a été faite dernièrement. Ouais. Avec Tech 3. L'année prochaine.
Alors, si on revient un petit peu sur notre pilote français, Zarco, moi j'aurais préféré qu'il aille sur,
une Suzuki usine,
tu vois, pour vraiment. Parce que Tech 3, je sais pas, j'ai un doute.
La Tech 3, c'est la moto de l'année d'avant. Donc en fait, les Yamaha Tech 3 qu'il aura, ça sera celle de Rossi cette année. C'est pas une mauvaise moto.
Mais c'est vrai que
elle marche partout.
C'est quand même Suzuki qui a choisi. Il a choisi quand même un pilote un peu plus jeune. Et
voilà, je pense qu'ils ont fait une bêtise.
Je sais pas. On verra à l'avenir. On peut rien dire.
Et notre ami Lorenzo, il va où?
Il va chez Ducati. Ouais, c'est la grosse révolution.
Et oui. L'année dernière, Rossi, pour blaguer, il a dit il manquera d'aller chez Ducati pour voir si tu peux faire quelque chose. C'était une boutade, mais là tu lui as pris
une provocation,
peut-être une provocation.
Il l'a pris.
On verra si ça marche. Hein. La Ducati marche bien cette année.
Il fera peut-être comme Stoner, il sera peut-être champion du monde l'année prochaine sur une Ducati.
D'ailleurs,
le seul qui a gagné était.
Stoner est souvent dans le box Ducati.
Oui, c'est vrai. On le voit souvent dans les paddocks.
On l'avait même annoncé courant certains grands prix, puis pour en finir, il n'est jamais venu.
Il ne le fera pas.
Il avait dit non et il ne le fera pas.
Non.
Bon, et chez Honda alors, donc Marquez.
Chez Honda, ça bouge pas.
C'est peut-être la seule usine qui bouge pas.
Ouais, voilà.
Il y a KTM qui est arrivé, qui a libéré aussi deux places. Hein, c'est aussi important, ça permet à d'autres pilotes de monter.
Ouais. Les deux Tech 3 sont partis chez Paul Espargaro et Bradley Smith sont partis chez KTM.
Et puis il y a deux Moto 3 qui sont montées chez Tech 3.
Yannone chez Suzuki aussi.
Ouais.
Donc, par contre, Suzuki.
Ils renouvellent l'ensemble.
Ils renouvellent l'ensemble des pilotes. Ça sera.
C'est Rins le second.
Ça sera un risque pour eux quand même.
Ouais, quand même. Parce qu'ils perdent tous les acquis de l'année quand même.
Oui, les deux découvriront la moto.
Oui. C'est sûr qu'ils n'ont pas les réglages l'an dernier du pilote en question. Ils perdent un petit peu.
Alors, si on faisait un petit pronostic, enfin, vraiment, vraiment, comme ça, on se projette en 2017.
Là, t'avances beaucoup de choses.
On pourrait dire quoi forcément, Marquez, maintenant, il commence à avoir ses marques, avec les pneus Michelin, la machine qui commence à s'adapter. Alors,
c'est ça qui est bien. On disait,
et son pilotage aussi, il pilote plus pareil.
Disait en début d'émission que, en fait, les quatre fantastiques qui sont rejoints par d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à gagner. Mais pour être champion du monde, c'est toujours les mêmes quand même. Là, le seul qui puisse un petit peu perturber le truc, c'est Vinales.
Oui.
Mais il est un peu jeune, donc on va bien voir ce que ça donne. En même temps, Marquez, à sa première année en MotoGP, il était champion du monde.
Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il a le même âge aussi que Marquez.
Ah oui. Donc il peut faire. Donc ça dépendra de la moto, ça dépendra des pneus, ça dépendra de plein de choses, mais je pense qu'ils ont le potentiel pour être champion du monde.
Ouais. Écoute, ma foi, on regardera le premier Grand Prix l'année prochaine au Qatar. Hein. On verra un petit peu comment se débrouille Vinales sur la Yamaha.
Bah oui.
Voilà. Il a quand même fait 4 podiums cette année. Hein.
N'oublions pas quand même Rossi.
Il sera toujours là. Toujours là, Rossi.
Get ourselves together here. We're gonna, we haven't done this one. I can't remember the last time we did this one. It's one from the 60s called Spider and a Fly. We'll be right back.
Voilà, messieurs, est-ce qu'on pourrait dire après sur la moto GP, on va terminer un peu, on va passer en moto 3. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de passer en moto 3 pour l'année prochaine toute dernière parole.
Je pense que 2017 sera encore plus intéressante avec un nombre de motos officielles de 12. Plus en plus nombreuses. Et donc, ça sera de plus en plus difficile pour les non-officiers officiels.
Voilà. Et on aura deux Français dans la catégorie Royrenne.
Le reste, c'est les Zarco. Et on ne sait pas, un Zarco, peut-être qu'il va nous faire des étincelles quand même. Hein.
Bah, il va apprendre, mais c'est un besogneux, il va bien apprendre.
C'est un bon pilote quand même. Ouais. Hein. On va revenir un petit peu tout à l'heure après sur la moto 2. Hein. Voilà, alors moto 3, alors on vient sur un Sudaf qui est champion du monde.
Sud-africain, oui. Ouais.
Ouais, le troisième champion du monde en Sud-africain, oui. Ouais.
Ça remonte.
Alors, 35 ans.
Brad Binder, de toute façon, je l'avais mis comme vainqueur, donc il a gagné, là aussi. Et franchement, il a dominé la saison, mais alors vraiment, c'est fantastique. Parce que même quand il devait plus gagner, il a quand même gagné. Hein. Il a été chercher ses victoires.
320 points, il faut aller chercher. Hein,
surtout en moto 2, la bagarre est telle que quand on voit qu'il est parti des moments comme Rossi en dernière position, il a réussi à remonter, c'est de la folie.
Dernier, et il a gagné. Ce qui est très rare quand même, surtout dans cette catégorie-là. En moto 3, c'était quand même assez fantastique.
Ouais, mais en même temps, on avait Danny Ken qui avait gagné l'an dernier. Et en montant en moto 2, après, c'est pas forcément. Il avait bien dominé quand même.
Oui, mais d'autres. Regarde Vinales, il est monté une seule année et il a gagné quand même deux fois.
Ouais, c'est
et
vrai.
C'est pour ça qu'il est monté très vite en moto GP. Hein, après.
Ouais. Et c'était.
Rins, il va faire la même chose aussi. Hein. Il n'y aura fait qu'un an de moto 2, il n'y aura pas de championnat, il n'aura pas été. Mais il monte en moto GP.
Moi, il me fait l'effet d'un pilote qui est calme, qui s'emballe jamais et qui calcule et qui est vraiment incisif en même temps, quoi.
Ouais, mature en fait, mature
pour son âge,
pour son âge.
Binder, faut pas oublier qu'il court dans la catégorie moto 3 depuis à peu près 4 ans. Si on regarde bien, 4 ans avant, il est déjà là. Bon, les gens l'ont oublié parce qu'au début, il marquait pas beaucoup de points. Il était placé parfois pas loin du podium, mais jamais de podium. C'est venu la deuxième année de course, troisième année l'année dernière, il a bien marqué les esprits en montrant qu'il était performant et qu'il arrivait sur les podiums aussi. Et cette année, il a vraiment percé.
Ouais. Il était dans le même team que Zarco, mais en moto 3, c'était avec Aro, Ajo.
Bon, qu'est-ce qu'on pense de Fabio Quartararo, notre pilote qui devait tout casser, qui devait terminer vainqueur depuis deux ans, déjà maintenant, de cette catégorie moto 3.
Il y a besoin d'être cadré.
Il a fait la même bêtise que beaucoup de pilotes. Il a pensé en changer. L'année, ça allait pas. Son team, ça allait pas du tout. Il a voulu changer, il a changé. C'était plus la même moto. C'était un nouveau team. Donc quelque chose qui était eux devaient apprendre, lui devait réapprendre une autre moto. Tout s'est mal passé, je pense.
Cette année, c'était pire, parce que l'an dernier, il a fini 10e du championnat et il a fait une 2e place.
Il n'a pas fait de podium,
il a fait 4e sa meilleure place, et puis il finit 13e, donc c'est moins bien cette année.
Oui.
Mais il y a un autre truc aussi, c'est que le gamin, il avait 15 ans, il en a 17, il a poussé. Et je pense que maintenant, il est plus lourd, plus grand, il est moins adapté au gabarit Moto 3, et moi je pense qu'en Moto 2, ça ira mieux.
C'est ce qu'il y en a qui disent aussi, hein. Mais je veux dire, Rossi, il était déjà assez grand. Pas si lourd, mais quand il gagnait en 125, hein. C'est tout.
On verra.
On regarde le nom. Brand Binder, 320 points et Quartararo 83. Tu vois la différence entre le premier et le 13e. 83 points, c'est pas. Il y a vraiment un écart phénoménal.
Déjà avec le deuxième, 177
points.
Oui, 177. Il y a déjà un sacré.
Brand Binder,
il a survolé.
T'es titré bien avant, c'est clair.
Ouais. Alors, par contre, un autre Français qui marche bien, c'est un petit Ch'timi, là. Enfin, il est un peu de la région.
On l'a eu à la radio ici d'ailleurs.
Chez Jules Danilo, lui qui a, au contraire, par rapport à la saison dernière, marche très bien.
Il est en progrès.
Il
a fait une 6e place en Hollande,
à
Seine, c'était pas mal du tout.
Oui.
Et dans le top 20,
il y avait un bon coéquipier, c'était Antonelli, qui a bien marché dès le début de saison, mais par contre, après, il s'est un peu effondré. Mmh. Et je pense qu'il n'y avait pas que Antonelli qui s'effondrait, je pense que sa machine ou le team n'a pas si bien marché que ça. Parce qu'on l'a vu aussi un peu stagner, aussi, Danilo aussi, à un moment donné, il montait, et d'un seul coup, on l'a vu un peu stagner. Franchement, vis-à-vis de l'année dernière, il a fait vraiment d'énormes progrès.
Moi, il me fait penser un petit peu à Zarco à ses débuts. Il bosse,
c'est possible.
Il fait pas de vagues, et puis mais il monte tout doucement. Quoi.
Ouais. Yamazbouk s'est fait virer en cours d'année.
Ouais.
Hein, ils étaient sur Peugeot, là, et il s'est fait virer en cours d'année.
Oui, Yamazbouk, faut savoir, c'est un râleur. Donc je pense qu'il a un peu trop râlé. C'est ce qui s'est passé aussi pour
Fenati. C'est trop vieux.
Un autre, c'est Fenati.
Ah ouais, ou alors il part aussi.
Il paraît que c'est suite à une engueulade avec ses mécaniciens qui a été viré. Donc voilà.
Alors qu'est-ce qu'on peut voir l'année prochaine? Parce que c'est vrai que c'est une catégorie vraiment disputée. Hein. Il y a près de 32 engagés sur le plateau, sur la ligne de départ.
Oh, c'est un spectacle formidable.
Parce qu'il n'y a pas même de pilotes qui vont monter. Même le Quartararo monte en Moto 2. Hein.
Voilà.
Il va y avoir aussi du spectacle. Hein.
Ouais. Et puis il y avait quand même un pilote, je reviens là-dessus, il y a quand même un pilote qui m'a épaté moi cette année, c'est Powie, le Malaisien là.
Ouais.
Parce qu'il a gagné deux fois sous la pluie, mais alors tranquille quoi, c'était incroyable, c'était un extraterrestre sur la pluie.
Oui, parce qu'au début même les commentateurs pensaient qu'il y avait des pneus pluie, hein, parce qu'il arrivait tout le monde pratiquement d'une demi-seconde par tour. Alors, ils ont dit ils ont discuté en disant qu'il y avait des pneus pluie, et après ils se sont rendus compte que c'était pas des pneus pluie, c'était des pneus normaux.
Ouais.
Et donc voilà. C'est une perle à faire attention dans l'avenir, mais pour l'instant, il n'y a fait que des résultats sous la pluie.
Oui, c'est ça.
Donc, l'écart entre KTM, alors Honda et Mahindra va se resserrer. On voit que ça se resserre au niveau
des performances.
Les performances,
c'est meilleur. Ouais, Mahindra a gagné quand même deux victoires. Hein. Il y a eu Bagnaia qui était. Et puis McPhee aussi sur Peugeot, qui est une Mahindra en fait. Hein.
Elle se resserre, mais j'ai.
Donc, il y a trois victoires Mahindra.
Je serais curieux de voir si on inversait les pilotes. Parce que moi, quand même, Bagnaia, il m'a vachement impressionné sur la Mahindra. Je pense qu'il fait beaucoup pour la réussite de la marque.
Bagnaia, oui. Ouais. Moi aussi. Hein. C'est vraiment un attaquant en nez. Hein. Ça sent, de toute façon.
Très bien. Je pense je vous propose de passer à la musique. Et après, on va revenir sur cette catégorie. Alors, la Moto 2.
L'année prochaine, on aura. On aura donc toujours notre Jules Danilo.
Oui.
Et puis on aura un autre Français, Enzo Boulhomme.
Oui.
Sur Mahindra d'ailleurs, qui va venir. Donc on aura encore deux Français.
Encore deux Français, en
Moto 3.
C'est très bien.
C'est pas mal, hein.
Très bien, impeccable. We'll be right back.
fires in urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
Un spécial rétro aujourd'hui sur, sur le championnat du monde des vitesses, hein, MotoGP, Moto 2, Moto 3. On quitte là, cette catégorie Moto 3 et on va venir sur la Moto 2. Alors forcément, Moto 2, ben là,
qu'est-ce Cocorico. Qu'on peut
dire Cocorico, Cocorico, la Marseillaise, tout ce que vous voulez.
Doublement Cocorico. Deux fois champion du monde, c'est quand même magnifique. C'est la première fois qu'un Français... Et deux fois champion du monde.
Alors, le meilleur pilote en vitesse de tous les temps, nombre de victoires 15, 14 en moto GP, en moto 2, une en 125, 40 podiums, 29 en moto 2, 11 en 125, pole position 18, 14 en moto 2, 4 en 125. Bref,
oui.
Un bon pilote quand même.
Cette année, il a fait quand même 10 podiums hein, sur l'année, hein. C'est quand même pas rien. Hein.
Ouais, et puis c'est en fait pourquoi il a fait ça, c'est parce qu'en fait l'année dernière déjà champion du monde, il avait la possibilité de monter en MotoGP, mais pas dans une écurie qui lui plaisait forcément. Donc il a osé remettre son titre en jeu. Il avait tout à perdre parce que
avant lui il y a d'autres. Hein.
Voilà, on voyait Rins très bien, on voyait et c'est vrai qu'il a réussi son challenge. Personne en Moto 2 n'a réussi à le faire jusqu'à présent.
C'est la première fois, surtout en suivant.
Et c'est le premier Français qui est double champion du monde. Donc ça restera dans les tablettes. Il a éclipsé les frères Saron.
C'est une autre période.
C'est sûr. Mais quand même, c'est pas rien. Et la concurrence est très, très rude. Hein. En Moto 2, il ne faut pas oublier qu'ils ont tous le même moteur. Les moteurs sont retirés au sort tous les trois Grands Prix.
Donc c'est vraiment le pilotage hein, qui est mis en valeur. Donc c'est.
Et pourtant cette année, je trouve qu'il nous a fait peur à un moment donné, hein, parce que il a marqué un peu le pas.
Ça a dérapé
après la Grande-Bretagne.
Voilà, en Angleterre, il s'est pris un petit peu le chou avec Alex Love, hein, et donc.
Rin s'est remonté terriblement au niveau des points, ouais. Et franchement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, ouais. Et puis il s'est repris au Japon.
Et donc il a su gérer la pression. Et c'est vrai qu'en fin de saison l'an dernier, dès qu'il y avait un peu trop de pression, on le voyait s'effondrer légèrement. Là, il a su la gérer. Donc je pense qu'il a gagné encore en maturité avec ça. C'est plus dur, disons que c'est pas un hasard si c'est champion du monde, puisqu'il a été deux fois.
Non, ça a été le plus régulier, hein, et celui qui a montré la plus de maturité au niveau des courses, ça c'est sûr.
Il y a un Grand Prix où il perd un peu le sang-froid, il percute je sais plus qui.
Là la sanction a été
et
hyper lourde.
La sanction
lourde.
A été quand même
hyper
assez
lourde. Ouais. Et en plus après quand on regarde le film, on se rend compte que il a tapé Love déjà au départ.
Non mais c'était vraiment tenté. C'était
il y avait la poignée qui était tordue et il avait du mal de tourner, donc de freiner. Donc effectivement à ce moment-là il a élargi. Enfin c'est ce qu'il dit. Bon,
mais non. Oui, mais ça serait compréhensible. Imagine simplement que là, Zarco qui allait gagner en France, moi, je pense que tout le monde lui tombe dessus. Oui. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne.
Il aurait dû laisser partir là pour son Grand Prix national et puis se contenter du podium. Et c'est vrai qu'il n'a pas su. Là, il a voulu le passer un peu en force et puis ça n'a pas marché.
Qu'est-ce qu'on peut penser de Rins alors qui était aussi le potentiellement vainqueur qui pouvait gagner
sur le podium. Oui, on pensait qu'il allait l'an dernier. Il était sur sa lancée. On pensait qu'il allait arriver et s'épanouir et ça n'a pas été le cas. Hein, il a été un petit peu décevant.
Rins, l'an dernier, c'est pareil, il y a eu vraiment un moment très très fort et un moment très bas après. Hein. Je pense que c'est un type qui peut mettre tout le monde sous pression, mais quelque part aussi ne pas supporter la pression.
Moi, j'ai eu l'impression que dès qu'il a su qu'il était pris en MotoGP chez Suzuki, il s'est relâché.
Un petit peu désuni,
non.
Il y a eu des chutes et il s'est blessé surtout.
Ah, il s'est blessé,
ça l'a marqué.
Il n'était plus aussi motivé, on ne voyait plus la même motivation une fois qu'il savait qu'il montait en MotoGP. J'ai trouvé, moi, que ça avait un petit
peu cassé
la dynamique.
Il y avait encore des chances d'être champion du monde. Il revenait quand même bien. Hein. Ouais, il est revenu quand même à 7 points, je crois, ou 6 points.
Il a eu chaud parce que dans la dernière course, il est à un seul point de Morbidelli. Ça veut dire que dans la dernière course, si Lutti n'avait pas passé Morbidelli, il aurait été quatrième.
Oui, c'est sûr. Hein,
donc, alors qu'il était le challenger était deuxième. Oui, et il remontait sans Zarco.
Et il faut regarder
donc, il a tout perdu en quelques temps. Hein.
Il faut surtout regarder le quatrième, Morbidelli. Parce que sa deuxième partie de saison est magnifique. C'est celui qui a marqué le plus de points.
Tout à fait.
Même mieux que Marco, que Zarco.
Oui, tout à fait. Morbidelli, il est impressionnant. Lutti aussi. Hein. Chapeau Lutti. Parce qu'il
fait
partie des plus vieux aussi. Il est toujours là.
Lutti, lui, c'est une institution. Il est là depuis Moto 2.
C'est le Rossi de la Moto 2.
Sans les victoires.
Sans les victoires.
Bon, qui on verra l'année prochaine donc dans cette catégorie Moto 2, parce que c'est toujours l'histoire des chaises musicales. Hein. La Moto 2, ça monte en Moto GP, la Moto 3 en Moto 2. Qui on peut voir comme potentiellement vainqueur du championnat du monde, hein.
Alors moi, je pense à Baldassari et puis à Morbidelli. Hein, j'y pense. Lutti, je ne sais pas s'il monte ou pas, je ne pense pas. Lutti sera toujours là, à mon avis.
Nagakami aussi.
Nagakami, tout à fait, ouais.
Ouais. Et Baldassari, c'est vrai qu'il a fait une belle progression cette année. Hein.
Oui, mais il est trop inconstant, je trouve. D'un Grand Prix à un autre, on le voit plus.
Oui, c'est ça.
Et d'un seul coup, on le revoit. Et on le voit plus, et on le revoit.
Et Alex Marquez, il n'arrive toujours pas à percer.
Non.
En Moto 2, c'est marrant. Hein.
Non.
Ouais. Il était tellement à l'aise en Moto 3, et là, c'est compliqué.
Alors, il y a Rémi Gardner, qui a impressionné personne, mais qui va changer d'écurie. Et à mon avis, ça peut-être le faire parce que
je verrais plutôt Morbidelli.
Oui, non pas pour être champion du monde, mais pour être pour rentrer dans le top 5
Il faut pas oublier notre Français là, Quattaro, hein, qui va arriver en Moto 2.
Oui, tout à fait.
Je sais pas, peut-être qu'il va s'habituer plus facilement à cette catégorie que la Moto 3.
Ouais, hein. Il va avoir une bonne moto, hein, il va avoir une Pagina Samaras, la Kalex. Il va avoir une bonne moto, donc
c'est la partie
bon
cycle qui change. Hein.
Oui,
mais c'est les mêmes moteurs. Hein.
Oui, mais le team est important parce qu'il faut savoir correctement régler la moto.
Oui.
Et c'est vrai que Brad Binder et Miguel Oliveira montent, mais ils vont avoir un châssis KTM, c'est un nouvel entrant dans les châssis. Donc ils n'ont pas de référence, la première année c'est compliqué d'être performant avec un nouveau châssis. On voit que Tech 3, il y a que cette année à peu près, avec Xavier Verge sur la fin
de
la
saison. Oui, mais quand il faut regarder les pilotes aussi, hein. Des fois, le cadre, comme on dit, ça ne fait pas tout.
Non, mais Zarco il a commencé à bien marcher, quand il a eu un Calex sur la Sutter, ça n'allait pas, il n'avait pas la moto pour gagner. Donc ça peut quelquefois donner le petit déclic qui fait qu'on se sent à l'aise et que c'est parti. Hein.
Donc, ouais. Donc un seul Français donc l'année prochaine en moto 2.
Un seul Français,
un seul Français,
oui.
Un seul
non,
Français,
avec Fabio. Si, non, Danilo. Ah non,
non Danilo,
en moto 3.
Il reste en moto
3.
Ouais. Ouais.
Voilà. Donc un seul Français. Donc
un Français en toutes les catégories.
Et deux,
moins, et deux, et deux en MotoGP.
Deux en MotoGP, deux en Moto3 et un en Moto2. Ouais.
Voilà. Bon, on fera un petit pronostic au mois de mars parce que là, j'ai le calendrier donc, du championnat du monde de vitesse. Si je le retrouve dans toutes mes notes. Voilà. Alors, il y a 17 Grands Prix. Et le premier Grand Prix commence, je vais vous le dire.
Au Qatar.
Non. Le 26 mars, au Qatar, forcément. Forcément. Là où il y a le moins de spectateurs.
Oui, 20 000 seulement. 20 000.
La nuit, les gens dorment.
Il n'y a personne, en fait. On voit quelques...
Voilà, ouais. Voilà. Voilà. Peut-être que je peux vous donner la date du Grand Prix de France, peut-être. Le 21 mai, si on veut déjà réserver nos places pour aller voir, bah forcément, nos pilotes favoris. Hein. Et quels sont nos pilotes favoris? On ne sait pas. Hein. Massi, peut-être, je ne sais pas, Zarco, peut-être. Hein. Bah,
Zarco
nous, Français.
En MotoGP, ça va être intéressant.
Hein. Oui.
Un Grand Prix national, on a toujours envie de bien faire.
Bien sûr. Et moi, je trouve qu'il est zen, ce pilote-là. Zarco, c'est vraiment... C'est un pilote qui est quand il y a une interview devant la télé, tout ça, il est toujours...
Il analyse beaucoup, il réfléchit, il travaille, on sent que c'est quelqu'un de... Il peut...
Et surtout, il fait une petite cabriole après chaque Grand Prix, il gagne, ça c'est bien.
Ça c'est bien,
Il fait un backflip, voilà, ça faut le faire, hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein.
Avec les bottes et le casque, oui.
Voilà, c'est ça, casque.
Et après, l'épreuve, parce que t'es crevé quand même.
Ouais. Surtout le double à la fin, c'était pas mal. Hein.
C'était avec son frère.
Dédoublé quand même.
Ouais, c'était avec son frère,
ça prouve peut-être qu'il est encore sous la poignée, parce qu'il va pouvoir réussir à faire ça après.
Je me souviens d'un mec qui a failli se noyer dans une
mare.
Oui, Lorenzo.
Heureusement qu'il y a un spectateur qui a
voulu faire le cheval dans une bâche.
Avec les bottes, la combine et le casque.
Oui, parce que le plan d'eau, c'était une bâche en dessous. Donc, au bord, il y avait encore la bâche.
Alors, au début, on voyait même qu'il était encore il était joyeux, hein, parce qu'il avait gagné. Au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, il est beaucoup moins joyeux. Tiens. C'est comme curieux.
T'as dit que Lorenzo a pris l'eau, il avait déjà
pris l'eau. Est-ce qu'on a tout dit sur cette saison prochaine là? Parce que nous, on fera une émission, mais forcément, au début, au mois de mars, hein, pour revoir un peu tout ce qu'on vient de dire là.
C'était une saison passionnante et je pense que la prochaine le sera aussi.
Voilà. Ah oui, très, je pense. Et j'ai trouvé le champion dans chaque catégorie.
Voilà. On repassera ça donc au mois de mars. 4 mois à attendre. Hein. Ça va être long quand même. Hein.
C'est l'hiver.
C'est l'hiver.
Ouais. C'est l'hiver. C'est long. En plus, l'hiver, c'est long. Voilà.
On aura les essais hivernaux pour se donner déjà un ordre d'idée.
Et voilà, c'est ça. Alors en plus, Yamaha a interdit à Lorenzo de faire des essais sur la
Ducati. Maintenant, ça y est, après Valence, c'était bon.
C'est normal. Ouais. Ah non, non.
Non, il faut attendre le 1er janvier.
Le 1er janvier.
D'accord. Alors que Ducati avait fait l'inverse. Hein, avait dit à Rossi de pouvoir refaire les essais sur la Yamaha. Hein. C'est pas sympa, ça, quand même, Yamaha.
Oui.
Je sais pas si vous trouvez, mais. Pas fair play.
Je pense que tout dépend comment il les paye, si c'est à l'année ou pas. Et je pense que Yamaha payait Lorenzo jusqu'au 31 décembre.
Ah, et je te rassure, il gagne beaucoup de sous. Je suis allé voir un peu sur Internet combien gagne un pilote de MotoGP. C'est beaucoup. Voilà. Très bien. Après le morceau de musique, je vous propose de partir dans Clermont-Ferrand, enfin à Issoire, tu vois, du côté de fabricant de motos françaises, enfin qui a disparu, mais qui, avec des gens qui font revivre encore cette légende. Enfin, on peut dire que maintenant c'est une légende,
le club Roxan.
Une région où il n'y a pas eu pas mal de pilotes français
qui ont déconné. Et en plus,
Riom.
Et un grand circuit.
Oui.
We'll be right back.
Info Moto tous les dimanches de 11h à 12h30 et sur Campus en 6,6 ou www.campuslille.com. On quitte le championnat du monde de vitesse 2016. On va parler moto française avec Jean-Michel Meunier du club Vauxhall. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors c'était le 13 octobre, le club Vauxhall fêtait les 15 ans. Alors les 15 ans de quoi du club ou
les 15 ans du club.
La disparition
c'était en 2010.
L'usine, je sais pas, explique un peu.
En 2001 quand il y a eu la première liquidation, il y a eu un
c'est compliqué hein,
c'était assez compliqué.
Il faut remonter un petit peu dans l'histoire, la création de Barra avec Jacques Gardette déjà l'origine en 95.
Bon, en 95, c'était le début de l'aventure.
Début de l'aventure.
C'est Gardette qui était pharmacien, qui avait fait fortune, qui a voulu faire une moto 100% française et qui s'est associé à Chevalier et puis à certains autres, à la Sodemo pour faire le moteur, Chevalier pour faire la partie cycle. Et ils ont sorti la moto. Les premiers prototypes, c'était au salon en 97. Et les motos en production sont arrivées fin 99.
D'accord, il y avait un stand de la moto légende il y a 15 jours là.
Oui, j'étais aussi.
Qui rendait hommage aussi à Alain Chevalier. Hein. Voilà, donc on continue. Donc c'est vrai que cette machine a un beau moteur, c'est une vraie moto. C'est pas comme une BFG, on va dire, un peu avec un moteur de voiture, mais là c'est vraiment
un moteur de
moto, une partie cycle de moto. Vraiment, c'est quelque chose qui était bien fait quand même.
Ah, c'était très très bien fait à l'époque, oui. Voilà. C'était la première moto qui était faite en 3D.
Ah oui.
Oui, ça faut laisser savoir.
Ça veut dire quoi en 3D alors?
Elles ont été faites sur des logiciels de dessin, alors qu'avant c'était sur des plans traditionnels.
D'accord, très bien. Donc alors 15 ans du club Vauxhall, donc vous êtes rendu là-bas, je suppose qu'il n'était pas tout seul.
Ah non, on était entre 100 et 120, à peu près 120. On s'est réunis à partir du vendredi. Et puis le samedi, c'est traditionnellement des balades. Donc les locaux nous donnent 4 circuits de 200-250 km. Et chacun se balade. Et on se retrouve le soir pour manger tous ensemble.
Et donc on fête le moteur bicylindre de la Vauxhall.
Ah oui, c'est ça. C'est
comment ça se passe alors avec des anciens peut-être salariés de l'entreprise, je sais pas.
Cette année, il n'y en avait pas. Habituellement, il y en avait. Ouais. Mais il faut savoir qu'à la fin, ils n'étaient plus que 10, hein, une dizaine de salariés, alors qu'ils étaient 120-125 à peu près au début de l'aventure. Donc ça a fini vraiment avec pas beaucoup de monde.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement cette machine, pourtant qui était quand même, c'est un beau produit quand même, n'a pas pu être continuer à être vendue en Europe ou dans le monde?
Oui, ils ont eu beaucoup de commandes au début et ils ont travaillé comme dans l'automobile avec plein de sous-traitants. Et il y a des sous-traitants qui ont grippé et du coup ils n'ont pas pu construire les motos. Ils avaient plein de stocks de certaines pièces et pas d'autres. Et du coup ils avaient un manque d'argent, il n'y a pas d'argent qui est rentré parce qu'il manquait des pièces. Et les banques n'ont pas suivi, donc il y a eu une première liquidation en 2001.
Alors j'ai entendu dire qu'il y avait plus de Vauxhall en Allemagne qu'en France. Il y a plus de Vauxhall qui ont été vendus en Allemagne qu'en France.
Oui, les Allemands.
C'est-à-dire que les motards français n'ont pas acheté français, enfin cette machine. Ils n'ont pas eu confiance alors.
C'est pas qu'ils n'ont pas eu confiance, c'est que les Allemands ont l'habitude et aiment bien les bicylindres. En France, on aime un peu tout, hein, les 4 cylindres. Hein, voilà.
Peut-être pas confiance à la fiabilité, peut-être, ou je sais pas. Ou...
C'est pas forcément moins fiable qu'une autre moto. Hein. Au début, ils ont des erreurs de jeunesse, mais ça a été réparé après. Il faut savoir que les Vauxhall, même quand elles étaient hors garantie, au niveau de l'usine, ils prenaient encore sous garantie les pièces.
Qu'est-ce qui a changé entre les modèles 95 et puis après les modèles 2002, 2005? Qu'est-ce qui a changé vraiment
Ils ont été fiabilisés au niveau de la pompe à eau, au niveau de la chaîne, les tendeurs de la chaîne de distribution. Mais normalement, c'était assez fiable. Elles étaient toutes fiables. Hein. Ce qui a changé aussi, c'est l'injection. Elles étaient en 45 au début, et quand ça a été repris par Cazaux, les injections ont changé. Ils ont été obligés de passer en 54. Et là, c'est la grosse révolution qu'il y a eu entre les anciens modèles. Il est nouveau.
Alors, si on revient un petit peu sur les péripéties, donc Vauxhall, ça, en création. Nombreuses sorties en compétition dans différentes catégories, Pro Twin, Moto Tour, Tourist Trophy, Ile-de-Man. On a vu des motos, des Vauxhall engagés dans toutes ces compétitions.
Oui, il faut se rappeler, à l'Ile-de-Man, au Tourist Trophy, il y avait Fabrice Miguet qui était sur une Black Magique, un prototype, et il a couru avec un casque-bol. Et les Vauxhall, quand elles passaient, elles étaient applaudies parce que c'était des motos françaises. Les Français s'amusaient à mettre des motos bleu, blanc, rouge au Tourist Trophy.
Oui, c'est incroyable ça.
Ah oui, oui, c'est Fabrice Miguet qui faisait ça.
Miguet, ouais, très bien. Très bien. Bah, écoute, je propose de passer un morceau de musique et on va revenir un petit peu sur cette aventure moto française. On parle moto française avec Jean-Michel Meunier du club Vauxhall. Ça commence, c'est sur un week-end, 3 jours, 4 jours. Comment ça se passe les réunions club Vauxhall?
Ouais, c'était sur 3 jours.
Il y a beaucoup de participants.
À peu près 120.
De tous les pays européens.
Non, c'est français, essentiellement.
Ah, c'est uniquement français.
Oui. Mais en Allemagne, ils ont leur rassemblement aussi.
Ah, d'accord, très bien. Ouais. On pourrait peut-être parler des modèles qui ont un peu, comment dire. Qui ont percé un petit peu chez Vauxhall. Il y avait ce VB1 un peu. Ils ont parlé de
c'était Boxer Bike qui faisait
Boxer
ça.
Bike. Oui. Donc c'est pas vraiment Voxer, mais c'est une préparation avec,
une préparation.
Avec une base.
Oui.
Très belle machine.
Oui, elle était très belle. Quand elle est sortie, c'était novateur au niveau forme. Elle est sortie en 2000.
C'est une super sport.
Oui, c'était une super sport. Oui. Avec un équipement en carbone, déjà.
Mais avec le moteur,
c'était
un
toujours
peu travaillé
le moteur,
ou
non, moteur stock.
Ouais, oui. Stock. Bon, c'était vendu à l'origine 15 000 euros quand même. Bon, c'est ce qui a fait un petit peu le problème de Voxamp, c'est un petit peu plus cher par rapport à la concurrence.
Oui, un peu, légèrement. Oui, bon, il y avait le Scrambler, il était à un petit 9 000 euros. Hein. Mais le Scrambler n'a pas forcément eu beaucoup
On pouvait comparer ça, par exemple, à une Ducat, Monstro, ou, bah, peut-être pas un Monstro, mais bon, voilà.
Bah, la Scrambler ressemble maintenant aux Ducati Scrambler, hein, qui sont sortis maintenant toutes neuves. Le Scrambler Voxan était sorti
alors,
il y a 15 ans.
Alors, le prix, effectivement, c'était... Alors, après, il y a un modèle qui a vraiment aussi fait... Il y avait fureur, c'est la Black Magic, tout le monde voulait acheter ça, c'était fantastique.
Belle,
on a l'impression une Norton.
Oui, c'est ça, avec son réservoir en alu.
Non, en alu, c'est... Très beau. Je sais pas,
c'était en hommage à Norton Manx. Hein, oui.
T'as eu l'occasion, toi, de piloter ces machines-là?
Non, moi, c'est un street que j'ai. Donc,
moi, c'est un street. On t'a jamais prêté une machine comme ça?
Ah non. Mal son. Voilà, c'est trop beau, donc on laisse au propriétaire. Ouais,
c'est... Donc le moteur, c'est pareil, c'est la même puissance que celui du Gasser Racer, toujours pareil. Ouais. Hein. Et c'était vendu aussi 15 000 euros, apparemment. Bon, c'était le prix de 15 000 euros était resté
15 000
un
euros
peu
pour la Black Magic, 17 000 pour la Black Classic, oui.
Ouais.
Voilà. Donc c'était... Bon, après, il y avait la Charade aussi.
Alors après, on termine avec aussi un modèle. Bon, c'est un petit peu une Black Magic avec un petit peu transformé, non ?
La Charade.
La Charade.
La Charade, c'était une Black Magic avec un carénage, avec un sabot moteur, mais des suspensions avant et arrière haut de gamme et surtout des freins Behringer.
Alors le freinage effectivement amélioré, pourquoi? Parce qu'à l'origine c'est pas,
si ça freinait très bien,
pas quelque chose de performant.
Mais
sur les modèles d'origine.
Ah non, c'était très performant. Oui.
Et donc là,
mais
apparemment c'est encore plus performant sur la Charade.
Oui, il fallait me faire attention sur la route, ça freinait trop.
D'accord. Ouais. Oui. Et l'amortisseur arrière aussi, voilà. Et bon, la Charade a fait référence sur un circuit, sur les circuits aussi. Hein, donc autour de Clermont-Ferrand, à Charade.
Oui, c'est un hommage. Charade. Oui, moto Auvergnate, circuit Auvergne, donc non Auvergne pour la moto.
Voilà. Mais... Et on termine avec le dernier modèle qui a aussi fait parler de lui, c'est le VX10, qu'on n'a pas vu trop quand même, parce qu'il est sorti à je sais pas combien.
Une trentaine 35 à peu près.
35 exemplaires.
Qui roule.
Et qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport donc, à la Charade et le Black Magic?
C'était une moto qui devait être. Du style de la Street Scrambler, une moto pour attirer le motard moyen, c'était pas le haut de gamme. Le prix était descendu et c'était pour concurrencer les Kawasaki Z et compagnie.
Ça faisait penser à une certaine forme de japonaise.
Oui, voilà.
Moi, je me souviens plus de ce modèle-là.
Ah non, mais il est sorti en juillet 2009. L'usine a commencé à fermer à partir de septembre 2009. Donc, c'était vraiment les personnes du club qui connaissaient Voxan qui avaient vu que ce modèle allait sortir.
Alors, tu me disais, durant le morceau de musique, dans le Cardette, 110 salariés à l'usine.
Oui, il y avait à peu près 125 salariés.
Et DJ Kazo qui rachète l'usine, où il fait une partie.
Voilà, ils étaient plus que 15.
De la société.
Voilà.
15 personnes.
15 personnes.
Ah, c'est pas possible. On peut pas fonctionner comme ça.
C'était pas possible. Il n'y avait pas beaucoup d'investissements.
Donc à partir de là, c'était foutu.
Et pourtant, ils ont sorti pas mal de modèles. Hein. Ils ont sorti le Street, le Black Magic, la Charade, la VX10. Mais c'était toujours sur la même base du même moteur.
Très bien.
Qui marche très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant une réunion Voxan?
Bon, on parle que moto. On se met en procession devant
quand
les motos.
On fait partie du club Voxan.
Non, on parle moto, on échange, on se donne des astuces. On parle.
Il y a que des Voxan, il y a pas d'autres.
Ah non, mais tout le monde peut venir. Hein.
Ah, tout le monde peut venir quand même. Si, d'accord. Ok. D'accord. Très bien. Bon, écoute, je te propose de passer un morceau de musique et on se retrouve après.
Fire!
Alors on va terminer cette histoire de la moto française Vauxhall avec Jean-Michel Meunier. 2010, rachat du nom par Venturi. Alors qu'est-ce que c'est que Venturi? Nous on l'a vu, on sait ce que c'est.
Venturi, c'est la rigolade. Ce sont des voitures électriques. Hein, électrique.
Un gros stand, il y a deux ans là, au salon de la moto.
Oui, ils ont fait la Wattman.
C'est nul.
C'était nul, elle n'a jamais été produite. Hein.
Bah, jamais produit, et puis voilà.
C'était juste un prototype, une carcasse avec rien dedans. Hein.
Qu'est-ce que tu penses de ce mec-là? Qu'est-ce que vous pensez, vous, Club Vauxhall? Allez, dis.
Ah, on a toujours été indépendant par rapport à Venturi, parce que Venturi, c'est Guildo Pastor qui s'occupe de ça. Il a racheté le nom. Et de ce fait, il est propriétaire de tout ce qui est Vauxhall. Donc les fournisseurs n'ont pas pu nous donner des pièces parce qu'ils n'avaient pas l'accord de.
Alors vous êtes obligé de faire des pièces qui sont un peu différentes de l'origine.
Oui, voilà. Parce que les arbres à cam ont été refabriqués là.
Vous avez des problèmes avec lui.
Voilà, tout à fait.
Bah, c'est incroyable.
Il n'a jamais donné son accord aux fournisseurs, donc les fournisseurs ne peuvent pas nous fournir directement avec des pièces d'origine qu'ils auraient pu refabriquer.
Donc il détient le nom Vauxhall, donc et à partir de là, il détient tout ce qui a été fait sur les motos. En fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, très bien. Comment on fait alors comment maintenant on fait pour avoir quand on a une Vauxhall maintenant, parce que comment on va pas aux concessions du coin, parce qu'il n'y en a plus, enfin il n'y a plus de concession dans le coin.
Il
n'y
a plus de concession.
Donc je suppose que si tu as un problème sur ta moto, tu es obligé de te débrouiller comme ça.
Il y a plusieurs choses.
Par le club, par un concessionnaire.
On a un club, le Vauxhall Club de France. Hein, vous tapez sur internet, vous allez tomber sur le site. Et là, on est à peu près entre 300 et 350 adhérents, ça dépend des années. Et on a un forum, donc on aide les gens. Hein, et pour tous les dès qu'on a un problème, on refabrique des pièces, donc des pièces de carrosserie. Donc toutes les carrosseries de tous les modèles sont disponibles sur le club, sur le site. Des joints, des pièces électriques, on fait des prêts d'outillage aussi. Le gros chantier, c'était de refabriquer des arbres à cames, un peu différents de ceux d'origine, parce qu'on n'avait pas le droit de les faire, voilà, grâce à M. Pastor. Donc pas mal de pièces, mais on peut aussi trouver des pièces neuves. Il y a un magasin qui est à Thiers en Auvergne, c'est Motovox, où ils avaient 17 semi-remorques de pièces détachées l'usine qui étaient rachetées. Ils vendent aussi encore des Vauxhall neuves.
Donc tu me dis qu'on peut encore acheter
une Vauxhall neuve. Oui, bien sûr, elles sortent de caisse, elles sont garanties.
Ah oui, d'accord.
Elles sont même prises il y a 10 ans,
tous les
il y a
5 ans. Tous les modèles?
Pas tous les modèles, il y a des Café Racer, il y a des Street, il y a la Black classique. Mais on peut racheter les pièces pour la transformer en Black Magic.
Oui, bien sûr.
Voilà. Par contre, des Charades, on ne peut pas en avoir. Ouais. Des VX10, on ne peut pas en avoir non plus.
D'accord.
Mais il y a d'autres modèles. Des Roasters aussi, on peut trouver encore.
Donc la réunion du club, c'est tous les ans?
Alors, tous les ans, on a deux réunions. C'est l'anniversaire du club en octobre. Là, c'était les 15 ans. Ouais. Et on a l'Assemblée Générale à la Pentecôte. Donc, on a au moins deux réunions. Et puis, entre deux, il y a des journées circuits au Bourbonnais, par exemple. On fait des salons locaux. On va à Iron Biker. On a un stand aussi qui tourne. On va au Café Racer Festival. Le rallye en Auvergne, le rallye des volcans, oui. Donc au rallye des volcans, comme ça en Auvergne, il y a beaucoup de Vauxhall qui roulent.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette aventure Vauxhall?
C'est une aventure humaine.
Oui, mais bon, ouais. C'est pas un gaspillage.
Ah, bien sûr, si.
Parce que si l'État avait donné un peu d'argent pour essayer de faire un peu remonter un peu les finances et... je vois ce que vous en pensez.
Il y a beaucoup d'argent qui était dépensé. Quand c'était l'Ercaso, il a travaillé avec les subventions de l'État, mais il n'a pas investi de l'autre côté. Après, quand ça a été liquidé, c'est parce qu'il y avait des dettes.
Il y a Dassault aussi qui s'est
mis
dans...
Oui, Dassault s'était mis dedans. C'était avec ses logiciels.
Dans les actions un peu de la société.
Quand Dassault est parti, les banques sont parties aussi.
D'accord, et donc ça c'est bon.
Voilà, mais bon, c'était vendu parce que Caso avait des dettes avec d'autres sociétés et les banques ont voulu récupérer
alors,
l'argent.
Alors, aujourd'hui, tu es un Vauxhall, alors finalement, ça roule bien, c'est fiable, c'est
marché. C'est très fiable, oui. Hein, oui, il y en a une qui a gagné en 2009.
Non, mais tous les jours.
Ah oui, à 100 000 km.
Je ne te parle pas de rallye, performance en rallye, oui. Mais de tous les jours. Quand tu la prends pour aller au boulot, tout ça, hiver comme été, donc c'est fiable ces machines.
Bah, c'est aussi fiable que toutes les autres motos. Hein.
Voilà.
Alors, ça marche très bien. Je suis né avec, là.
Voilà. Tu es venu avec, oui, non, mais je confirme effectivement.
J'ai fait mes 90 km.
Et voilà, et donc, qu'est-ce qui a fait que les Français n'ont pas acheté cette moto française?
Ah, parce qu'il y avait un engouement au début, et c'est au début où les pièces ont manqué. Et certaines pièces.
Pourtant, bon, pourtant c'est vrai que dans les salons, le motard français était toujours un petit peu resté un petit peu coincé sur ces machines. Il disait, ouais, c'est une belle machine, mais
il n'y
avait pas quelque chose qui les décidait à acheter la machine.
Ils n'ont pas fait cette pub, il n'y avait pas assez de concessionnaires.
Ou les concessionnaires, un peu.
Voilà. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a eu.
Sur l'île, on cherchait le concessionnaire Vauxhall.
Hein. Ouais, c'était.
On savait pas où c'était.
C'était Lismoto.
Voilà, on savait pas où c'était, il n'y avait pas de pub.
Voilà,
on savait pas alors. Mais tu veux, voilà. L'émission se termine.
Oui.
Notre technicien nous fait signe que voilà. Merci d'être passé, Jean-Michel, aujourd'hui dans les studios de Campus. Oui. J'espère qu'on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour la prochaine balade Vauxhall.
Hein? Bien sûr, on vous invite. Hein.
Et voilà, très bien. Et donc, rendez-vous dimanche prochain, donc 12h30 sur les ondes de Campus 106,6 ou www.campuslille.com. Merci, bon dimanche. Au revoir.